tout de suite, on retrouve mes différents invités, à commencer par Véronique Calabat, qui va nous présenter la journée qui se passe en ce moment même pour les lycées Raoul Folraud et Jules Renard. C'est la journée First, femmes et ingénieurs, réussir en sciences et technologies. Alors, qu'est-ce que veut dire cette journée et quel est le but? Eh bien, on en parle tout de suite avec elle, juste avant de retrouver les différentes marraines qui sont présentes aujourd'hui afin d'échanger avec les étudiants qui sont présents pour les rencontrer. C'est la deuxième édition de cette journée, on en parle tout de suite avec elle. Bonjour Véronique Calabat.
Bonjour.
Vous êtes responsable du bureau des entreprises en charge des sections supérieures pour l'établissement Raoul Folraud, mais également pour Jules Renard. Et en ce moment a lieu la journée First. Alors c'est une journée portée par l'association qui a le même nom que cette journée First. On va revenir aussi un petit peu sur cette association. C'est la deuxième édition de ce salon. C'est quoi la journée First ?
Alors la journée First, effectivement, ça part de l'initiative de l'association First, Femmes Ingénieurs Réussir en Sciences et Technologies, qui promeut effectivement les métiers, alors plutôt on va dire masculins, enfin qu'on a l'habitude de voir au masculin.
Dit masculin.
Voilà, c'est ça. Ouais. Et en tout cas occupé majoritairement jusqu'à ce jour par des hommes, et effectivement, et qui en fait la promotion auprès des filles, à partir du collège et du lycée.
Dans les établissements scolaires, peut-être des interventions aussi en entreprise aussi.
Alors certainement des interventions, alors avec des entreprises, en fait, ce sont des professionnels qui viennent faire des interventions dans les établissements. Et alors First, ça c'est vraiment l'association. Ouais. La journée First au niveau du lycée, comment ça se passe? Eh bien en fait, par expérience et puis à force d'être avec les jeunes, j'ai relevé le fait que les garçons étaient aussi perdus dans leur orientation que les filles, et que qui peut le plus peut le moins, ma foi. Et j'ai ouvert cette action aux filles et aux garçons, donc des deux établissements, Jules Renard et Raoul Folraud.
Et c'est en ce moment même donc que cette journée se passe.
Voilà, c'est cette semaine, c'est prévu pour jeudi.
Quel rôle les marraines jouent dans cette journée? Parce que on sait que donc il y a des marraines qui représentent chaque corps de métier présent. Quel rôle elles ont?
Alors les marraines, ce sont des femmes, alors des étudiantes parfois, et des femmes en emploi la plupart du temps, qui occupent justement ces postes, alors soit des postes dont on parlait tout à l'heure, qui sont plus souvent occupés par des hommes, mais ou alors des filières, on va dire la filière industrielle, des choses comme ça. Et ces femmes, en fait, elles viennent tenir des tables rondes autour desquelles viennent s'installer des jeunes pour échanger, leur expliquer leur métier, leur filière, leur parcours, leur réussite, leurs écueils. Voilà.
Et on entendra d'ailleurs, tout à l'heure, on aura l'occasion d'entendre des entretiens réalisés avec certaines de ces marraines qui seront présentes. Il y en aura combien cette année?
Nous avons 15 marraines de présentes cette année.
Donc 15 entreprises représentées.
15 entreprises, absolument, que je tiens à remercier. Elles se reconnaîtront puisqu'elles libèrent les marraines gratuitement pour nous. Donc,
quel type d'entreprise était représentée l'année dernière, par exemple?
Alors, l'année dernière, nous avions un fort soutien du milieu industriel, et nous avions beaucoup d'entreprises du secteur nucléaire, secteur d'énergie, voilà, comme le commissariat d'énergie atomique, ou des secteurs assez soutenus. Cette année, et suite à un questionnement que j'ai fait à chaud l'année dernière auprès des élèves, m'a demandé d'avoir des ingénieurs, certes, mais pas un petit peu moins d'ingénieurs, et aussi des parcours diversifiés. Donc j'ai retenu ces éléments pour la nouvelle édition.
Ouais, de manière à rassembler encore plus d'élèves avec leurs projets qu'ils sont en train de construire à l'heure actuelle. Quelle entreprise on va pouvoir retrouver cette année dans des milieux différents donc?
Alors des milieux différents, 14 entreprises sur 15 sont des entreprises locales nivernaises, donc là on est très heureux. On a des entreprises qui viennent aussi bien du milieu industriel comme Arcus, on a également Aubert Duval, on a Alfa Laval qui sont des entreprises industrielles. Nous avons aussi, parce que ce sont des métiers qui intéressent fortement les jeunes et c'était aussi leur demande, beaucoup de métiers, j'allais j'allais dire, à uniforme, donc tout ce qui est pompiers, gendarmerie, armée, ouais. Sont également présentes, représentées par des marraines et autres entreprises qui ont joué le jeu.
C'est quoi l'objectif de cette journée ? C'est d'évoquer des parcours, d'expliquer des objectifs professionnels à travers certains métiers. C'est aussi pour les jeunes d'affirmer leur volonté de parcours professionnel futur ?
Oui. Elle s'inscrit en fait dans la dynamique du choix des spécialités pour les élèves de seconde. Donc l'un des objectifs, c'est évidemment d'ouvrir les horizons de nos élèves et de leur faire connaître et identifier des voies professionnelles auxquelles ils auraient pu ne pas penser. Et comme je l'ai précisé en introduction, c'est effectivement des échanges de parcours, donner des conseils, voir également qu'il n'y a pas que des parcours linéaires. Quand j'ai présenté les profils aux jeunes dans les classes afin qu'ils fassent leur choix, nombreux ont constaté effectivement qu'on pouvait être diplômé dans une filière et en fait avoir un parcours de vie aussi assez différent.
On évoque beaucoup la féminisation de certains métiers depuis le début de notre entretien parce que c'est le cœur du sujet de l'association First et donc de ce forum qui a lieu en ce moment même ici dans l'enceinte sur Raoul Folleroy et Jules Renard. C'est cette féminisation des métiers, l'objectif à travers ce forum, c'est aussi de casser certains clichés, certains stéréotypes qu'on peut avoir de certaines professions.
Tout à fait. On a beau être en 2025 et on a l'impression qu'on le rabâche tout le temps, mais dans les faits, ce n'est pas encore tout à fait acté. Certaines professions n'attirent pas nécessairement plus de personnel féminin, alors que ces professions se sont elles-mêmes féminisées. Je parlais des métiers techniques, technologiques, scientifiques, numériques. J'ai adjoint cette année le numérique parce que c'est important. Beau nombre d'élèves qui suivent ces formations, ces parcours, sont encore des garçons. Et c'est intéressant pour les filles de s'ouvrir à ces métiers, mais c'est également intéressant, et les garçons le notent, d'avoir pour ces derniers aussi de rencontrer une mixité dans leur quotidien. Ils n'ont pas envie de travailler dans des milieux qui sont strictement masculins, puisque ça emporte une ambiance différente. Le fait de savoir qu'on a des femmes,
et parfois supérieures, en tant que
supérieures, qu'on puisse travailler dans des environnements mixtes, ça apporte effectivement une ambiance de travail diversifiée qui intéresse les filles et les garçons.
Suite à cette première édition, parce que là c'est la deuxième édition seulement de cet événement First ici, dans l'enceinte Raoul Folleroy, Jules Renard, la première édition, qu'est-ce que vous remarquez surtout dans la manière dont il y a une approche de la conversation avec ces marraines ? L'interaction entre les jeunes et ces marraines.
Ce qu'on remarque en premier, il y a beaucoup d'intérêt par rapport à la question du salaire lié au niveau des études. L'année dernière, j'avais majoritairement des ingénieurs et à chaque fois, les jeunes se disaient « Mais alors, vous gagnez beaucoup quoi votre salaire en sortant d'études ?» Et il y a, alors, pour le dire, mais c'est parce que c'est aussi une réalité de terrain aujourd'hui, ce sont des questions qui intéressent. Et puis, mais pas seulement, il y a également l'épanouissement. L'épanouissement, les filles posent ces questions-là, effectivement, comment on fait pour être une fille dans un milieu d'hommes, comment on fait pour manager des hommes, est-ce qu'il n'y a pas de sexisme, ça ce sont des questions qui reviennent.
L'avantage d'une journée comme celle-là aussi, c'est qu'il y a une relation un petit peu moins conventionnelle qu'il pourrait y avoir avec le milieu éducatif, on parle différemment, on répond différemment aussi, on se tient différemment.
Oui, tout à fait. Cette journée est mise sous la valeur liberté. Les marraines sont installées à des tables. Il y a des groupes qui ont été faits, maximum 10 élèves par groupe, afin de pouvoir libérer la parole de chacun des élèves, parce qu'on sait qu'au-dessus de 10 personnes, il y a certaines personnes qui ne parlent pas. Et puis, les questions sont libres et les marraines peuvent répondre tout à fait librement également. Donc, ça laisse effectivement toute une certaine confidentialité sur les échanges. Et c'est assez intéressant de voir ce qui leur sort.
Généralement, dans la journée, les jeunes, ils ont le temps de faire quoi ? Une dizaine d'entretiens ?
Chaque jeune va rencontrer 4 marraines. C'était le minimum parce que j'ai 430 élèves qui rencontrent 15 marraines sur une journée.
D'accord, ouais.
Donc, c'est très timé. Donc, je leur ai présenté, en fait, les profils des marraines en amont. Ils en ont choisi 4 et ils en rencontrent à peu près 3 sur 4.
Oui, ils font leur marché choix. Après.
Voilà, sur 2 heures chacun. Ouais. Et puis en fait, toutes les 2 heures, j'ai 3 nouvelles classes qui arrivent pour rencontrer les marraines.
Qu'est-ce que vous retenez, vous, de cette première édition et ce que vous espérez, bien sûr, de cette seconde qui se termine là dans quelques heures maintenant?
Alors déjà, la première édition, ce que je retiens déjà, c'est qu'il a été possible de la porter au sein de l'établissement. Et ça, c'est vraiment important de le noter. Donc, la direction a accepté parce que c'est une grosse organisation. On est obligé de banaliser les cours et donc tout le monde a joué le jeu. Ça, c'est le premier élément. Le second, bah, effectivement, quand on déplace 430 élèves, il y a aussi pas mal d'imprévus à gérer au cas où. Moi, je suis avec des marraines qui travaillent dans des milieux, exemple les pompiers, ou qui peuvent être appelés effectivement en astreinte. Alors, j'ai une ou deux marraines sous le coude qui se sont portées volontaires
au cas où,
je peux appeler un peu au pied levé. Et puis, ce que je retiens, c'est effectivement le questionnaire que j'ai fait à chaud l'année dernière, tant auprès des marraines que des élèves, 70% de satisfaction, 70% de réponses à des questions qu'ils se sont posées ou qu'ils ne se sont pas posées, mais en tout cas, une lutte contre des croyances souvent erronées. Donc, l'objectif est atteint. Voilà, on peut toujours faire mieux, mais en tout cas, on a moins l'avantage d'avoir fait ça.
Et on imagine que ce sera l'objectif qui est en cours de cette deuxième édition. On va entendre des entretiens que j'ai eu l'occasion de faire avec trois de marraines qui seront présentes justement aujourd'hui. Leur impression et puis ce qu'elles espèrent pouvoir faire passer comme message lors de ce moment. Merci beaucoup Véronique Calabat, merci à vous.
Merci beaucoup, merci pour cette invitation.
Bonjour Aurélie Faure.
Bonjour.
Alors vous êtes commissaire aux armées et vous êtes également chef de pôle commissariat de la base aérienne d'Avord en intérim, si j'ai bien compris. Vous êtes sur 2 postes en même temps, 3 aussi un petit peu à côté. On va voir pourquoi, vous avez un parcours très particulier. Et puis vous êtes également une des marraines de cette journée First. C'est la première fois que vous êtes marraine de cette journée pour cette deuxième édition. On va revenir bien sûr sur votre parcours, sur ce que ça veut dire être commissaire aux armées. Juste avant, j'aimerais qu'on revienne sur l'importance pour vous de cette journée.
Alors déjà, je suis très contente de participer à cette deuxième édition. C'est une première pour moi. C'est aussi une découverte. Et de pouvoir partager mon expérience avec tous les jeunes étudiants, pouvoir interagir avec eux, c'est quelque chose qui est très intéressant.
Ouais, partager votre expérience, votre parcours aussi, qui est relativement particulier. Vous attendez à certaines questions types, à certaines questions qui seront accentuées sur quelque chose en particulier de votre parcours et de votre profession?
Peut-être le parcours, qu'est-ce qui m'a fait emprunter cette voie-là, de partir d'un profil, on va dire en bas de l'échelle, en hôtellerie et restauration, d'emprunter une voie qui a toujours suivi un petit peu ce domaine, mais avec une transition aussi vers le tourisme, par exemple, et de finir quand même commissaire des armées, donc au sein du ministère des armées. Peut-être que les jeunes étudiants se poseront les questions de pourquoi cette transition vers l'institution militaire.
Alors justement, on va l'évoquer un petit peu, votre parcours ici sur BAC FM, parce que c'est intéressant. Qu'est-ce qui vous a motivé, vous, à rejoindre l'armée, à choisir une carrière dans ce domaine-là, alors que, comme vous le disiez, au début, ce qui vous intéressait, c'était l'hôtellerie-restauration?
Alors oui, en effet, j'ai commencé ma première partie de carrière à travailler dans l'hôtellerie traditionnelle, également sur des navires de croisière, donc partout dans le monde. Donc j'occupais un poste où je m'occupais de la clientèle francophone à bord des navires de croisière, et pendant plusieurs années. Puis un jour, j'ai reconsidéré le fil de ma vie, de ce que j'avais envie de faire, et travailler pour mon pays, pour la France, un petit peu imposé à moi en 2020. J'ai eu l'opportunité donc de m'engager dans l'armée française en tant que commissaire. Et donc après plusieurs tests, des entretiens, j'ai eu mon premier poste en tant que militaire et j'en suis très satisfaite parce que c'est une expérience qui est très enrichissante au quotidien et au profit de la France.
Pour devenir à la fin commissaire aux armées, c'est ce que vous êtes actuellement. Ça consiste en quoi être commissaire aux armées?
Alors le commissaire des armées travaille dans plusieurs domaines. Principalement, nous sommes dans ce qu'on appelle le soutien de l'homme. Ça veut dire qu'on va soutenir les militaires des trois armées, que ce soit la marine nationale, l'armée de l'air ou bien l'armée de terre, le soutien au quotidien. C'est-à-dire que le commissaire des armées va coordonner, par exemple, tout ce qui est hôtellerie, restauration, tout ce qui est transport, tout ce qui va être l'administration, tout ce qui va être aussi la gestion des espaces verts, par exemple des bases aériennes avec l'entretien des plateformes aéronautiques, comme ici par exemple à Avor. On s'occupe de divers domaines qui vont, on va dire, faciliter le quotidien de nos forces armées et du militaire au jour le jour.
Et c'est ce que vous allez pouvoir développer avec les échanges que vont vous demander certains étudiants en ce moment même. Alors là, à l'heure où l'on se parle, nous sommes à deux jours de cette journée, mais la diffusion est ce jeudi même. Vous allez parler bien sûr de féminisation de certains domaines professionnels. C'est ce qu'on évoquait avec une des organisatrices de ce salon, Véronique Calaba, à l'instant, juste avant vous. Justement, cette féminisation de certaines professions, comment vous la percevez ? Est-ce que c'est quelque chose sur lesquels vous voulez insister lors de ce salon ?
Oui, alors il faut savoir que dans l'armée, nous sommes de plus en plus de femmes à nous engager. Les postes sont ouverts à toutes, dans tous les domaines d'activité, hein, d'ailleurs des armées. Alors oui, c'est quelque chose d'important parce que, par exemple, au ministère des armées, nous sommes de plus en plus de femmes. Il y a des postes pour tous les profils, pour toutes les études qu'on fait. Et c'est important de souligner le fait qu'on est de plus en plus nombreuses à travailler au sein de l'armée française.
Il y a souvent cette question qui revient de est-ce que en tant que femme, dans un milieu comme celui-là, vous avez rencontré certains défis, certaines complexités à y arriver ? Est-ce que vous, c'est votre cas ou pas spécialement ?
Alors, ça va faire 5 ans que je suis dans l'armée et oui, j'ai eu malheureusement quelques exemples où parce que je suis une femme et que j'ai un poste à responsabilité, il a fallu un petit peu plus se démarquer peut-être et justifier notre place parce que il faut changer les mœurs de certaines personnes encore. Mais c'est en bonne voie et au sein du ministère, on est très confiant. D'ailleurs, le ministère des Armées travaille énormément pour ça et pour que chaque femme soit respectée. Et si on est à nos postes, c'est qu'on le mérite. Au même titre que les hommes.
Bien sûr. Quel conseil justement vous donneriez à une jeune femme qui aspire à une carrière comme la vôtre, finalement, ou du moins similaire à la vôtre ?
Les conseils que je donne, c'est de rien lâcher, c'est de travailler déjà pour les postes auxquels nous sommes affectés. Comme on dit, le travail paye toujours. Et ça se passe bien. Si on est à ce poste aujourd'hui, c'est qu'on l'a mérité. C'est tout autant qu'un homme, hein, par exemple. Et de toujours croire en ce qu'on a envie. Si on a envie d'être à ce poste, il faut y croire et il faut tout donner pour y être.
Cette journée FIRST va être l'occasion pour vous de rencontrer des femmes comme des hommes, des jeunes femmes comme des jeunes hommes également. Vous aurez un discours, vous attendez à avoir un discours différent ?
Je pense pas, dans le sens que chaque personne mérite sa place. Peu importe si c'est un homme ou une femme, l'essentiel c'est que le travail soit là, qu'on fasse nos preuves. Et si on a un poste, c'est qu'on le mérite. Peu importe, je pense, ouais, qu'on soit une femme ou un homme. Et après, si on a un discours plus envers les femmes, c'est qu'il faut pas hésiter, il faut oser aller vers des postes qui peuvent être considérés dans le par habitude pour un homme. Donc c'est peut-être plus par là que les femmes doivent se défendre et se battre et ne pas hésiter en fait aller vers des postes qui pourraient leur plaire mais qui sont plutôt affiliés à des hommes. Ben non, pourquoi pas que ces postes soient également pour des femmes. Ensuite, je pense que chaque personne mérite sa place au sein de l'institution, qu'on soit homme ou femme, c'est pareil, c'est une question de compétence et de savoir-faire.
Et que le meilleur est le poste, bien évidemment. Et cette journée, exactement, Femmes et ingénieurs, réussir en sciences et technologies sera l'exemple de ces parcours-là dont vous faites partie et dont vous êtes une des marraines. Merci beaucoup, Aurélie Faure. Merci à vous d'avoir été mon invitée. Merci.
Merci, au revoir.
Bonjour Nathalie Viera.
Bonjour.
Vous êtes consultante en risque chimique.
Oui, c'est un peu une spécialité. On est très peu en France à avoir cette spécialité.
Ah
oui ? En fait, je fais de la prévention des risques professionnels et je me suis spécialisée sur la prévention du risque chimique puisqu'à la base, j'ai une formation de chimiste.
Ouais. Voilà. D'accord, ouais, c'est intéressant, mais bien sûr, on va évoquer plus en détail un petit peu ce que ça veut dire et puis les missions qui découlent de ce métier-là, d'être consultant en risque chimique. Vous participez, parce que vous êtes également marraine de ce salon FIRST, qu'on a évoqué déjà avec une autre marraine, une collègue marraine à vous, et une des organisatrices de ce salon. Pour vous, l'importance de ce salon, déjà FIRST, avec cette thématique ?
Déjà, faire connaître des métiers souvent attribuées à des hommes ou plutôt dans des milieux très masculins, montrer que on peut être une femme et accéder à ce type de métier et potentiellement voilà éveiller des ambitions auprès des jeunes filles sur des métiers auxquels elles n'auraient pas forcément pensé.
Vous dites que c'est un métier qui est rare en France. Vous, vous êtes en plus une professionnelle de ZLE. Est-ce que vous savez si vous faites partie, en plus des rares femmes, à faire ce rare travail ?
Alors, je ne saurais pas vous dire exactement, mais dans le peu que je connais et que j'ai pu voir sur les réseaux, on n'est pas nombreuses.
Ouais, ouais, bien sûr. Et qu'est-ce qui vous a motivé justement à choisir une carrière comme celle-là en gestion du risque chimique ?
Alors, en fait, à la base, j'ai fait une formation chimiste. Je voulais être dans la police scientifique. Finalement, je me suis retrouvée dans un labo de R&D et très vite j'ai pris des missions HSE, donc hygiène, santé, sécurité, environnement, donc un domaine que je connaissais pas forcément, et je me suis rendu compte qu'il y avait beaucoup de choses à faire, donc je me suis dit allez, je me spécialise sur le chimique puisque pour le coup ça me parlait bien et je le fais à fond, donc voilà. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que tout ce qui est... alors, quand on parle produits chimiques, il faut voir plus large que laboratoire, que
pharmaceutique,
etc. Tout le monde est exposé aux risques chimiques. Une coiffeuse, une fleuriste, nous, dans nos vies personnelles, on est tous exposés à des substances. Il y a une réglementation européenne assez lourde sur cette gestion, enfin sur le comment on doit faire, en fait. Et maîtriser ce risque n'est pas évident. Donc, je me suis spécialisée pour justement appuyer les entreprises à être en conformité vis-à-vis de ces réglementations.
Alors pour qu'on comprenne un petit peu plus concrètement, encore, je vais prendre votre exemple, vous avez parlé des fleuristes. Moi, ma maman, elle est fleuriste, par exemple. Si toutefois, vous allez à sa rencontre, comment ça se passe, en fait ?
Alors, l'idée, c'est d'aller voir le professionnel. On fait un audit, donc on regarde son travail, comment il exécute son travail, etc. J'identifie s'il y a des expositions aux substances. Donc, typiquement, un fleuriste, il peut y avoir des résidus de produits phytosanitaires sur les plantes, sur les fleurs. Et en contact cutané, ça peut provoquer des maladies professionnelles, des dermatites, des choses comme ça. Et donc, en fait, on identifie s'il y a des expositions à des substances et on évalue cette exposition. On la quantifie si on peut. Et ensuite, on met en place, enfin, on propose des actions pour... réduire les expositions, voire supprimer, dans l'idéal, c'est supprimer l'exposition.
Il y a de la sensibilisation, j'imagine, vous formez les employés aussi, finalement, au sein des entreprises.
C'est ça, on fait aussi des séances de formation, information sur le risque chimique, sur les bonnes pratiques de laboratoire, sur la partie réglementaire, puisque typiquement, pour avoir des infos, on doit pouvoir lire des documents, donc on explique aux utilisateurs où trouver le document, comment trouver l'information dans le document. L'idée, c'est vraiment de faire comprendre aux gens, enfin, de faire en sorte que les gens arrivent à identifier à quel moment ils sont exposés, de quelle manière, et de faire en sorte qu'ils ne le soient plus ou moins.
Et ce qui est intéressant, c'est que depuis peu, vous êtes indépendante, vous êtes lancée à votre compte. Ça va faire un an, c'est ça ?
C'est ça, j'ai créé mon entreprise il y a un an, donc pendant la première année, j'ai cumulé mon emploi de salarié et mon entreprise, et j'ai décidé, voilà, il y a un mois, depuis un mois, je me consacre entièrement à mon activité parce que j'ai plusieurs projets de développement sur mon entreprise localement. Il y a plusieurs projets de développement dont on entendra parler prochainement. Voilà.
Mais on aura bien sûr l'occasion de le relayer ici sur Bac FM avec grand plaisir. Vous allez l'évoquer, ça, justement, avec les étudiants, cette démarche de se lancer à son compte et d'entreprendre aussi personnellement, de prendre du risque.
Oui, parce qu'en fait, ça fait peur à beaucoup de personnes. C'est vrai que moi, c'est un projet que j'avais en tête depuis des années. Mais finalement, quand on est bien accompagné et on a la chance d'avoir beaucoup de structures qui accompagne les entrepreneurs, notamment à Nevers, enfin dans la Nièvre. Et en fait, quand on est bien accompagné, bien soutenu, ben finalement, c'est pas si difficile que ça. Alors effectivement, ça nécessite un engagement. Voilà, c'est beaucoup de travail, c'est beaucoup. Faut savoir, faut faire de la com, faut faire du secrétariat, faut faire de la compta, notre métier, etc. Il faut faire plein de métiers en même temps. Mais c'est très intéressant. Il faut surtout pas avoir peur de se lancer, en fait. Bien au contraire.
Bien sûr, bien sûr. Et j'imagine que les jeunes vont être nombreux à vous poser ces questions justement sur la prise de risque et comment on s'accompagne et comment on fait pour qu'une création d'entreprise se passe au mieux et surtout par les temps qui courent actuels, que ce soit économique, que ce soit bien sûr pour différentes raisons. Qu'est-ce que vous allez essayer d'apporter comme message à ces jeunes et à ces jeunes femmes surtout? Parce qu'il y a des jeunes femmes, il y aura des jeunes hommes, il y aura surtout des jeunes femmes qui viendront vous poser des questions. Qu'est-ce que vous allez essayer de leur apporter comme message?
Mais c'est surtout déjà qu'elles se fassent confiance en fait, qu'elles se fassent confiance, qu'elles osent se lancer dans leur projet. Il n'y a pas de métier interdit aux femmes, c'est peut-être plus difficile dans certains cas, mais il n'y a pas de métier interdit aux femmes. J'ai fait 20 ans dans l'industrie, donc voilà, beaucoup d'hommes. Mmh. Je suis expertise chimique pour les pompiers de la Nièvre, donc voilà, il faut rien s'interdire. Mmh. Il faut oser, il faut croire en ses capacités et voilà.
Merci beaucoup, merci à vous.
Merci à vous, au revoir.
Bonjour Océane.
Bonjour Théo.
Vous faites partie des dernières marraines que je reçois ici sur BAC FM à l'occasion de cette journée First qui se déroule en ce moment même à Raoul Folreau et à Jules Renard pour évoquer donc cette journée. Vous allez rencontrer des étudiants qui vont échanger avec vous sur votre parcours, sur votre fonction actuelle. Vous êtes formatrice process. On va revenir bien sûr dessus juste avant. Est-ce que vous pouvez présenter un petit peu votre parcours?
Tout d'abord, merci Théo pour cette invitation. J'ai réalisé donc un bac scientifique, donc actuellement un bac option mathématiques physique. Puis ensuite, j'ai réalisé 2 ans de classe préparatoire physique chimie sciences de l'ingénieur. À l'issue de cette classe préparatoire, j'ai rejoint l'école spéciale des travaux publics. D'accord. Et lors de ce cursus d'ingénieur, j'ai découvert une matière qui m'a passionnée, l'ingénierie environnementale.
Ouais.
C'est pourquoi j'ai décidé de suivre un double diplôme aux États-Unis à l'université de Berkeley en tant qu'ingénieur environnement.
Ça veut dire quoi concrètement être ingénieur environnemental? C'est concrètement ça consiste en quoi?
L'ingénierie environnementale est un domaine très vaste qui traite de la qualité de l'air, la qualité de l'eau. Tout ingénieur peut se spécialiser dans un domaine.
D'accord.
Et pour moi, il était capital en fait de participer à la transition énergétique et pour ce faire, donc c'était de suivre un cursus en ingénierie environnementale.
D'accord. Vous attendez à, j'imagine, cette journée First, vous attendez à avoir des questions sur votre parcours de la part des jeunes étudiants qui vont venir vers vous, notamment sur cette formation aux États-Unis. Est-ce que pour vous, c'est l'axe qui va être le plus évoqué par les étudiants à aller étudier à l'étranger?
Non, je pense que ce qui va intéresser les étudiants, ça va être plus mon poste actuel, qui est donc formatrice à la centrale de Belleville-sur-Loire, qui est un métier peu connu. Effectivement, à atteindre ce poste, mon cursus académique pourra sûrement susciter beaucoup de questions auprès des étudiants. Mais je pense que les questions porteront principalement sur le quotidien et mon poste actuel.
Alors justement, formatrice process au sein de la centrale de Belleville, ça consiste en quoi être formatrice process?
Alors avant tout Théo, j'aimerais remettre un petit peu de contexte par rapport à ce poste. Effectivement, une centrale nucléaire permet donc de produire de l'électricité bas carbone. Et pour ce faire, nous devons former les personnes qui participent au quotidien à ce projet-là. Il faut savoir que cela représente environ 80 000 heures de formation par an. Et parmi ces employés, certains sont spécialisés dans le pilotage du réacteur, c'est-à-dire faire varier la puissance du réacteur pour produire plus ou moins d'électricité selon la nécessité du réseau.
D'accord.
Mon quotidien consiste à accompagner ces pilotes. Donc, tout comme il ne viendrait pas à l'idée de mettre un pilote novice dans un avion en plein vol, ce serait de former au quotidien ces futurs pilotes sur un simulateur pleine échelle, qui est une copie conforme de la salle de commande que l'on retrouve au niveau du réacteur, et de mettre en place des situations pour vérifier qu'ils sont capables de faire face à toutes ces situations.
C'est ce que vous allez évoquer lors de cette journée First, femmes et ingénieurs réussir en sciences et technologies avec comme ligne rouge la féminisation de certains domaines et activités. Justement, vous, lors de vos formations, est-ce que vous pouvez nous donner un petit peu le nombre ou du moins le pourcentage d'hommes par rapport aux femmes que vous formez, que vous rencontrez?
Oui, tout à fait. Alors, à la centrale de Belleville-sur-Loire, nous sommes environ 20% de femmes. C'est un pourcentage qui reflète exactement le pourcentage de femmes présentes dans les cursus scientifiques. Donc, j'insiste sur le fait que ce domaine est encore très masculin, mais on a toute notre place et qu'il faut oser s'engager dans ces cursus-là, que nous avons donc toute notre place et que nous sommes les bienvenus.
Ouais, quel conseil vous pourriez donner, par exemple, demain à une jeune femme qui serait intéressée à rejoindre la même activité que la vôtre? Quel conseil vous pourriez lui donner?
Je lui conseillerais de choisir tout d'abord un métier passion, d'oser. Et ne pas hésiter à découvrir tous les métiers qui s'offrent dans l'industrie nucléaire sur le site EDF Recrute. et que c'est un métier passion, donc ouais. Il faut foncer.
Ça va être toute l'importance de cette journée First. Justement, l'importance de cette journée, vous, l'importance pour vous d'être présente à ce salon?
Pour moi, la journée First représente l'opportunité de présenter donc tout d'abord mon métier en tant que formatrice à la centrale de Belleville-sur-Loire, qui est un métier peu connu, mais également de présenter mon parcours académique et surtout motiver les jeunes et les informer, puisque le lycée est un moment clé dans leur orientation.
Oui.
Donc j'aimerais leur apporter ces informations et pourquoi pas créer des vocations.
Et c'est ce qu'on aura l'occasion donc de retrouver pour cette journée First. Tout au long de la journée, il y aura des garçons comme des filles d'ailleurs qui vont venir vous rencontrer. Est-ce que vous attendez à avoir un discours différent selon si c'est filles ou garçons qui vous posent des questions ou pas spécialement?
Non, absolument pas. Je ne ferai pas de différence entre les futurs étudiants masculins ou féminins. Donc, je tiendrai le même discours pour les deux.
Et ils viendront vous rencontrer avec grand plaisir. Merci beaucoup, Océane. Merci.
Merci à vous, Théo. Bonne journée.
Voilà, Bac FM, tout de suite, c'est le retour du son pop-rock. On se retrouve demain à 13h avec un nouvel invité. Les infos de la mi-journée. Très belle après-midi à vous et à demain, 13h.